Il est 8h30 à Paris, 7h30 en temps universel. Un nouveau journal Afrique avec vous, Pierre Boudias.
Timide retour à la normale à Bukavu. Les écoles ont rouvert en début de semaine dans la ville occupée par le M23 soutenu par le Rwanda. Si les enseignants étaient bien là, de nombreux élèves manquaient à l'appel. Précision en début de journal. Vers une victoire écrasante du parti présidentiel au sénatorial tchadien. Scrutin qui se tenait hier et ne concernait que les conseillers municipaux et provinciaux. Il vient clore le cycle électoral qui met fin à 4 ans de transition. Les bénéfices du pétrole russe ont-ils été détournés en Centrafrique? La question posée par les oppositions après la livraison de près de 36 millions de litres de carburant offert par Moscou il y a un mois. Les autorités rejettent toute corruption et assurent jouer la carte de la transparence. Et puis l'un part, l'autre compte bien rester en plein désengagement de l'agence américaine USAID. Son pendant européen entend poursuivre ses investissements en Afrique. Une présence qui sera discutée lors d'un sommet de l'aide internationale qui se tient au Cap. Rentrée sous tension dans l'est de la République démocratique du Congo, les salles de classe sont rouvertes à Bukavu une semaine après la prise de la capitale du Sud Kivu par les éléments du M23 soutenus par le Rwanda. En pleine période des examens du premier semestre, les élèves ont donc retrouvé le chemin de l'école depuis lundi sur les ordres des rebelles. Mais si les enseignants étaient bien là, les parents d'élèves opposent eux une certaine réticence. Paul Lorgerie.
De retour dans son école primaire Ibanda 2, Antonia Ntimire Biamungu, la directrice, constate qu'il manque beaucoup d'élèves à l'appel dans les 16 classes que compte son établissement.
Nous avons 20 élèves seulement. Là où j'avais 816 élèves, les autres ne sont pas encore là, mais progressivement, peut-être, ils vont encore emboîter les pas des autres.
La semaine dernière, Léon Moussagui, directeur par intérim de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, a invité les responsables d'établissements et enseignants à préparer les salles de cours, mais surtout à évaluer et à signaler la présence de tout engin explosif ou autre accessoire militaire. Une mesure insuffisante pour Mamie, mère de 4 élèves.
J'ai vu une vidéo sur les réseaux sociaux où des enfants de 13 ans avaient été massacrés à Goma. Ça m'a fait peur. C'est pour cette raison que j'attends de voir comment évolue la situation. Bien sûr, nos enfants vont retourner à l'école, mais nous estimons que la sécurité n'est pas encore rétablie.
Si certains établissements scolaires ont ouvert leurs portes, notamment les structures privées, les écoles secondaires sont restées quasiment vides lundi et mardi, sans parler des écoles situées dans les villages désertés par la population. Les universités, de leur côté, demeurent fermées. Une erreur pour Nestor Manegabe Rubangiza, le directeur de l'école primaire Ibanda 3, qui considère que l'éducation des enfants doit continuer coûte que coûte.
L'école est apolitique et nous devons nous forcer pour sauver la vie de ces enfants.
Une réouverture dont s'est félicitée la FCM 23 qui appelle la population à ne pas céder à la panique et à envoyer leurs enfants à l'école afin de ne pas compromettre leur avenir.
Paul Lorgerie. Dans ce contexte, le Royaume-Uni a imposé hier de premières sanctions au Rwanda pour son implication dans le conflit en RDC. Londres dénonce la prise de Goma et Bukavu qui constitue sans Noël une violation de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Conséquence, le gouvernement britannique annonce la suspension de l'aide bilatérale directe aux autorités de Kigali, à l'exception des fonds destinés aux plus vulnérables, ainsi que la réduction des activités de promotion commerciale avec le Rwanda. Le Royaume-Uni met également fin à l'assistance pour les formations militaire. La République démocratique du Congo a de son côté décidé de suspendre pour 4 mois les exportations de cobalt, minerai rare qui sert notamment à la fabrication de batteries rechargeables. La RDC en assure les 3/4 de la production mondiale. Explication de Coralie Pierret.
Jamais depuis 2016, le cobalt avait été vendu aussi bas sur le marché mondial. Un peu plus de 20 000 dollars la tonne en ce début d'année contre 80 000 en 2022. Un manque à gagner énorme pour la RDC puisque le cobalt constitue 15 à 20% de ses exportations. C'est donc pour essayer de faire remonter les prix que la RDC a décidé de suspendre les exportations pour 4 mois via son autorité de régulation et de contrôle des marchés des substances minérales stratégiques. Il y a un an déjà, le président congolais Félix Tshisekedi avait évoqué pendant un conseil des ministres la possibilité d'introduire des quotas d'exportation pour le cobalt. Espérons que les coûts remontent aussi pour une meilleure rémunération des creuseurs artisanaux, indique Eric Kalala, le directeur de l'entreprise générale du cobalt, une filiale de la compagnie publique Gécamines. Mais cette décision suffira-t-elle? D'autant que la surproduction qui explique la baisse des prix a augmenté depuis que l'un des géants du secteur, le groupe chinois Simoc, a inauguré une deuxième mine en RDC en 2023. Coralie Pierret, Kinshasa, RFI.
Et la semaine dernière, dans une interview, le président Félix Tshisekedi a évoqué des discussions avec les États-Unis concernant les minerais stratégiques dans le pays. Des discussions toujours en cours selon la présidence et dont la teneur n'est pas publique. Ces minerais stratégiques sont, selon Kinshasa, l'enjeu de la guerre menée par le M23 appuyé et soutenu par le Rwanda. Les autorités congolaises accusent Kigali de piller ses ressources et de les revendre aux Occidentaux. Un mot du conflit au Soudan où l'armée régulière revendique la prise d'un axe majeur dans la capitale Khartoum, celui du pont de Souba qui donne accès au centre administratif de la capitale, un quartier aux mains des forces de soutien rapide depuis le début de la guerre civile. Les paramilitaires y ont concentré une grande partie de leurs forces à Khartoum. RFI, il est 8h35, N'Djamena, le Tchad où le parti au pouvoir se dirige vers une écrasante victoire au sénatorial. Elle se déroulait hier. Seuls les conseillers municipaux et les conseillers provinciaux étaient appelés aux urnes. Le mouvement patriotique du salut obtiendrait 45 des 46 sièges selon les résultats provisoires de l'agence en charge des élections. Les 23 sénateurs restants étaient nommés par le président de la République. Élus pour une durée de 6 ans, ils représenteront les collectivités autonomes, une première dans le pays qui vient mettre un terme à un cycle électoral après 2 ans de transition et 4 ans après la mort du maréchal Déby Itno. N'Djamena, la correspondance de Olivier Monodji.
Le Conseil constitutionnel doit confirmer les résultats de l'ange. Le mouvement patriotique du salut MPS, le parti au pouvoir, gagne 45 sièges sur 46. Il sera largement représenté au sein de cette nouvelle institution qu'est le Sénat. Seul parti d'opposition représenté est le Rassemblement national des démocrates tchadiens, RNDT Le Réveil d'Albert Paimi, qui remporte un siège dans sa province du Mayo-Kébi-Ouest. Les partisans de sa formation dénoncent par ailleurs des irrégularités dans la ville de Mundu, au sud du pays, où ils demandent un recomptage des voix. Cette élection est marquée par l'absence des transformateurs de l'ancien Premier ministre, Succès Masra, et le groupe de concertation des acteurs politiques GECAP qui avait décidé le boycott des élections législatives, provinciales et locales. À 40 ans, le président Mamad Déby s'offre un boulevard pour gouverner. Élu au premier tour de la présidentielle de mai 2024 avec 61% des voix, il dispose également d'une large majorité à l'Assemblée nationale. Son parti, le MPS, occupe 124 sièges sur 188. Installé début février, les députés seront vite suivis par les conseillers communaux et provinciaux qui prendront leur poste ce mercredi, mettant ainsi fin à une transition politique de 2 ans. Olivier Monodji, N'Djamena, RFI.
Le pétrole de la discorde en Centrafrique. Plus d'un mois après la livraison de 30 000 tonnes de carburant offert par la Russie, des voix continuent de réclamer la transparence dans la gestion des recettes financières. Pays enclavé au cœur du continent, la RCA n'a pas d'ouverture sur la mer. Cette cargaison a donc été importée via le port de Limbé au Cameroun. Mais dans les rangs de la population, de la société civile et de l'opposition, certains pensent que les autorités ont mis en place des stratégies pour répartir les bénéfices, des accusations rejetées par le gouvernement qui a donc apporté des éclaircissements. RFI Bangui, Rolf Steve Domialeux.
Un mois après le déchargement de cette cargaison au Cameroun, les opposants réunis au sein du Bloc républicain pour la défense de la Constitution dénoncent une gestion opaque de ces carburants. Martin Ziguele est le porte-parole du BRDC.
Ce don a été fait en Centrafrique depuis 2024, donc avant même l'adoption du budget. Pourquoi ce n'est pas inscrit au budget? Nous voulons que les ressources tirées de la vente soient inscrites dans le tableau des opérations financières de l'État, qu'ils viennent en déduction du besoin du trésorerie de l'État, parce qu'aujourd'hui, l'État centrafricain est obligé de s'endetter sur le marché monétaire à des taux prohibitifs pour le fonctionnement de l'État.
Ce lundi, dans la version Osango de l'émission Parole au gouvernement sur la télévision centrafricaine, le ministre des Finances Erwin Doba a apporté des explications.
Pendant que Igona Assemblée nationale a dit...
Pendant la présentation du nouveau budget à l'Assemblée nationale, le gouvernement n'a pas encore reçu la confirmation de ce don. Beaucoup de personnes pensent que la vente de ces carburants n'est pas transparente, mais je vous assure qu'en avril, je serai devant l'Assemblée nationale lors du collectif budgétaire pour parler de ce don ainsi que de tous les événements majeurs qui n'ont pas été pris en compte dans la loi des finances.
Alors que les prix des carburants ont connu une hausse de près de 80% depuis janvier 2023, la société civile centrafricaine exige que ces dons soient acheminés et vendus en Centrafrique pour stabiliser les prix et renflouer les caisses de l'État. Rolf Esteve Domialeux, Bangui, RFI.
L'actualité en Somalie où les autorités annoncent la mort de 70 rebelles Chebab, des islamistes radicaux tués dans une opération conjointe de l'armée et des forces locales dans l'état d'Irchabel dans le centre-sud du pays. Mogadiscio assure que plusieurs caches d'armes et des véhicules de combat ont été détruits. Opération dans le cadre de la guerre totale déclarée par les autorités à la rébellion, conflit mené avec l'aide de l'Union africaine et de frappes américaines. Les États-Unis qui ont provoqué la stupeur en stoppant leur aide humanitaire via l'agence USAID, un vide immense alors que l'Afrique est le principal bénéficiaire de ces fonds. Alors que plus de 500 banques de développement se réunissent à partir d'aujourd'hui au Cap pour évoquer l'avenir de l'aide internationale, certains partenaires du continent ont déjà fait savoir leur intention de continuer à soutenir les projets des PME. C'est le cas de la Banque Européenne d'Investissement, la BEI. En 2024, c'est 89 milliards d'euros d'investissement, 8 milliards dédiés aux activités hors de l'UE, dont plus de 3 milliards d'euros ont été consacrés à des investissements sur le continent africain. Les précisions de Charlotte Cosset.
La moitié de ces investissements part pour le secteur privé, l'autre moitié pour le secteur public. Ils servent à financer des fonds d'investissement ou des banques, par exemple, avec toujours les mêmes objectifs. Ambroise Fayol, vice-président de la BEI.
C'est des projets qui, à 60%, sont des projets qui visent à lutter contre les effets du changement climatique. Ça veut dire, en particulier, des projets qui visent à améliorer des réseaux énergétiques. On a fait ça, par exemple, au Cap-Vert, à partir d'éoliennes. On a fait des projets qui visent à améliorer les connexions des écoles et des hôpitaux à l'énergie solaire en Gambie. Beaucoup de projets dans le domaine de l'agriculture. On a fait beaucoup de projets qui visent à soutenir et à renforcer les chaînes de valeur agricole en Côte d'Ivoire, au Sénégal, par exemple.
Dans un contexte de réduction générale de l'aide publique au développement, le maintien des budgets est une question centrale.
Dans ce contexte difficile, on a une caractéristique, c'est que notre principal partenaire financier vient de la Commission européenne. Elle travaille dans le cadre de programmes budgétaires qui sont pluriannuels. Donc ça, c'est évidemment un avantage qu'on a. Mais évidemment, dans la mesure où nous, on cofinance des projets avec d'autres institutions, si ces autres institutions sont moins présentes, c'est souvent des projets qui sont plus difficiles à financer pour nous aussi.
Son programme budgétaire se termine en 2027. Les discussions avec les partenaires européens pour la prochaine enveloppe ont déjà été entamées.
Et le sommet du Cap a été placé sous le label de la finance en commun. 3 jours de discussion autour des thèmes de la croissance inclusive, du développement durable et du changement climatique. Il est presque 7h42 en temps universel. Les programmes continuent sur RFI.